France Inter. .fr.
Bonjour Jean-Claude Amezen.
Bonjour.
Vous présidez le Comité consultatif national d'éthique qui depuis 2 ans tente de trouver un chemin acceptable par le plus grand nombre sur la délicate question de la fin de vie. Le rapport que vous avez rendu hier montre justement qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur l'euthanasie ou le suicide assisté, mais qu'il y a en revanche une demande largement partagée sur le droit à une sédation profonde, c'est-à-dire l'injection d'un produit qui place un malade en phase terminale dans un sommeil profond jusqu'à son décès, ou encore sur le fait que les directives anticipées, c'est-à-dire les souhaits du patient lui-même, deviennent contraignants pour les médecins et les soignants. Et on comprend que ces deux points pourraient faire partie des évolutions de la loi sur la fin de vie que François Hollande a promis de réviser. On va y revenir en détail après le constat sur la situation actuelle. Jean-Claude Amezen, vous dénoncez d'abord le scandale du mal mourir qui dure depuis 15 ans. L'accès aux soins palliatifs fait toujours défaut à la plupart des personnes qui devraient en bénéficier aujourd'hui.
Oui, si vous voulez, c'est la loi, comme vous dites, la loi du 9 juin 1999, date d'il y a 15 ans. Elle donne accès à toute personne dont l'État le requiert à des soins palliatifs, et elle n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a plus de 80% des personnes qui devraient avoir accès aux soins palliatifs qui n'y ont pas accès en fin de vie. Donc c'est vraiment un scandale, et ça entraîne une fin de vie qui est insupportable pour une grande majorité de personnes, hein, et une situation d'abandon. Donc il y a vraiment un problème, je dirais, de non-accès aux droits.
À qui la faute ? On comprend que, en lisant votre rapport, que l'organisation des hôpitaux et l'implication aussi des personnels, il y a des unités de soins palliatifs, mais parce qu'il y a ces unités, les personnels qui n'en font pas partie considèrent que ce n'est pas leur problème.
Voilà, si vous voulez, indépendamment de la faute, la question c'est que faudrait-il faire,
oui. Hein,
et ce que nous pensons, c'est que ce défaut d'accompagnement en toute fin de vie reflète une incapacité du système de santé à accompagner, à soulager la douleur, à soulager la souffrance à d'autres moments de la vie. Et donc si on a un système de santé qui considère que le soulagement de la douleur et l'accompagnement ne devraient exister qu'à la toute fin de vie, et il y a d'excellents services et unités de soins palliatifs, ça veut dire que dans le reste du temps, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de soulagement de la douleur. Donc pour nous, plutôt que notre lecture de ce débat, c'est plutôt que de se focaliser sur les 3 dernières semaines de vie.
Oui, parce que c'est limité à 3 semaines aujourd'hui.
Alors c'est aussi quelque chose de tragique. Alors c'est 3 semaines pour les soins palliatifs, comme si lorsque quelqu'un a mal, lorsque quelqu'un souffre, on attend les 3 dernières semaines de sa vie pour dire tiens, vous pourriez avoir accès, sachant que seuls 20% des personnes y auront accès. Mais ça va plus loin. Le Parlement, il y a un peu plus d'un an, a voté, ce qui était très généreux, un congé d'accompagnement pour les proches. Mais ce congé d'accompagnement pour les proches, dit le Parlement, c'est dans les 3 dernières semaines de vie. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, pour accompagner un proche, il faut qu'un médecin ait dit, dans 3 semaines, il ne sera plus là. Et on voit bien que la question de l'accompagnement, la question du soulagement de la douleur et de la souffrance, se pose et devrait être accessible à tous les moments de la vie où c'est nécessaire, y compris en fin de vie, mais pas seulement en fin de vie. Et par rapport à nos voisins, on avait une réunion il y a 10 jours avec les comités d'éthique anglais et allemands. Ils sont très surpris de cette situation, parce que pour eux, les soins palliatifs, c'est les soins, c'est-à-dire c'est le socle du système de santé. On vous soigne, on soulage votre douleur, et quand il faut donner un traitement ou faire une intervention, on le fait en plus. Mais il n'y a pas d'un côté les traitements et de l'autre côté les soins. Donc je crois qu'il faut repenser notre système de santé, et je crois que ce défaut majeur d'accompagnement en fin de vie est symptomatique et révélateur d'un problème très général. Nous avons du mal, en tant que société, c'est vrai pour les médecins, pour les soignants, d'accompagner les personnes et de soulager leurs douleurs et leurs souffrances.
Deuxième point de votre rapport, il n'y a pas de consensus sur l'euthanasie et le suicide assisté. Et pourtant, ce n'est pas ce que disent les enquêtes d'opinion, Jean-Claude Amezen. Vous vous méfiez des sondages qui sont pourtant massifs. Hein.
Voilà. Si vous voulez, le rapport, le but de ce rapport, sur les plus de 2 ans de débat, il y a eu la commission de réflexion fin de vie présidée par Didier Sicard qui a fait des débats dans 9 fils. Il y a eu l'avis du comité, il y a eu la conférence de citoyens sur la fin de vie que nous avons mis en place. Il y a eu les espaces de réflexion éthiques régionaux à qui nous avons demandé d'animer le débat public dans les régions. Ça n'est pas, notre souci n'était pas de regarder les pourcentages. Notre souci était de voir s'il y avait ou pas des positions conciliables qui s'exprimaient dans le pays. Et ce que nous constatons, indépendamment des pourcentages, c'est que entre les personnes qui sont favorables à l'assistance au suicide, mais défavorables à l'euthanasie, ceux qui sont favorables aux deux, ceux qui sont défavorables aux deux, il y a une divergence profonde. Encore une fois, c'est pas la question du nombre qui nous préoccupe, c'est la question des opinions, la question des recommandations et la question des arguments qui sont présentés par les uns et par les autres.
Des opinions qui s'expriment sans forcément toujours savoir de quoi on parle parce qu'il y a,
alors ça nous
comme
a
vous
frappé.
Dites, des interprétations sémantiques très variées.
Ça nous a frappé. La commission de réflexion sur la fin de vie de Didier Sicard dit par exemple, pour toute une série de raisons, l'euthanasie ne devrait pas être autorisée. L'assistance au suicide, c'est plus ouvert. Par contre, la commission Sicard dit « Un geste létal qui accélère le décès en toute fin de vie peut être considéré comme une sédation. » Pour d'autres, un geste qui accélère le décès, c'est une euthanasie. Donc vous voyez que même sur les termes, pour la conférence de citoyens, pour la majorité des membres de la conférence de citoyens, une assistance au suicide ou une euthanasie, ça ne fait pas de différence. Ce qui compte, c'est que la personne l'ait demandé et qu'ensuite elle réalise elle-même le geste ou qu'elle demande à un médecin de le faire. Pour d'autres, il y a une différence radicale entre le fait, et d'ailleurs pour certains pays, en Suisse, l'assistance au suicide est dépénalisée, l'euthanasie est interdite. De manière étrange, en Belgique, l'euthanasie est autorisée, l'assistance au suicide est interdite. Donc vous voyez que ces divergences, elles n'existent pas seulement dans le débat public français, on le voit aussi à l'échelle d'autres pays.
Bon, on peut dire que sur ces points-là, vous recommandez la prudence à l'exécutif.
Nous ne recommandons rien, hein, c'est un rapport. Ce que nous disons...
Il prend la suite d'un avis que vous avez rendu aussi il y a un an et demi.
Voilà, ce que nous disons, c'est qu'il y a des points sur lesquels il y a un très large accord, et ça comporte non seulement des recommandations évidentes comme l'accès aux soins palliatifs, mais un certain nombre de demandes. Il y a un accord. Sur ces deux points, il n'y a pas d'accord. Ça ne préjuge pas de ce que le législateur peut vouloir faire. Mais en tout cas, ce que nous disons, c'est sur ce point... Il n'y a pas d'accord.
Ça peut donner une indication. Le droit, un droit à la sédation profonde. Expliquez-nous, oui. J'en ai parlé au début de cet entretien, c'est-à-dire la possibilité d'une injection d'un produit qui plonge le patient dans un sommeil profond jusqu'à son décès.
Voilà, donc il y a un très large accord pour dire. Aujourd'hui, c'est le médecin qui peut décider, dans le cadre de la loi du 22 avril 2005 sur la fin de vie, d'une manière générale, si je puis le dire, hein, ce que nous avons perçu, c'est véritablement une volonté de la part des personnes d'être entendues et que leur volonté soit respectée. Et nous avons l'impression, nous l'écrivons, que la loi du 22 avril 2005, qui se voulait une transposition à la fin de la vie...
Loi Leonetti, je rappelle.
Voilà, loi Leonetti, de la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui est une loi sur les droits des patients, est plus une loi des devoirs des médecins qu'une loi des droits des patients. Et donc il y a une demande que ce que peut faire le médecin, endormir la personne... avoir une sédation profonde jusqu'au décès.
Quand il n'y a plus d'espoir. Hein.
Voilà, ou quand la personne est en phase terminale, soit quand elle a décidé d'arrêter ses traitements et que donc sa vie va finir. Aujourd'hui, c'est une décision du médecin. Et la demande, c'est que ça soit une décision de la personne, si elle le veut.
Qui s'impose aux médecins et aux soignants.
Voilà, qui s'impose aux médecins et aux soignants. La même chose, vous l'évoquiez, pour les directives anticipées. Le paradoxe, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on appelle directive ce que la loi dit être un souhait. Donc on dit directive, c'est il faut faire ce que j'ai écrit, mais la loi dit c'est un souhait dont le médecin prendra compte. Donc la demande c'est que ces directives soient vraiment des directives et qu'elles s'imposent.
Exemple concret dans une affaire qui a beaucoup occupé l'actualité, Vincent Lambert, s'il avait explicitement par une directive anticipée dit je veux qu'on arrête le traitement s'il n'y a pas d'espoir, il n'y aurait pas eu de débat et pas de débat à avoir au sein de l'équipe médicale qui s'occupe de lui.
Dans le cadre de la loi actuelle, oui, parce que ces directives n'auraient été considérées que comme des souhaits, mais la demande, c'est que ces directives, si elles s'imposaient, auraient évité le fait que chacun se demande ce qu'il aurait voulu, il l'aurait écrit et ça aurait simplifié grandement la décision.
Jean-Claude Amezen, j'en profite pour signaler à vos auditeurs qui sont aussi souvent vos lecteurs que le troisième volume des livres adaptés de votre émission sur les épaules de Darwin va apparaître le 5 novembre prochain. Retrouvez l'Aube, une coédition des Liens qui libèrent. France Inter, les deux premiers volumes se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Bravo Jean-Claude. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions des auditeurs de France Inter sur la fin de vie, mais aussi sur d'autres questions éthiques, évidemment, qui alimentent aujourd'hui le débat public. 01 45 24 7000 et les réseaux sociaux avec le hashtag Interactive. Dans un instant, la revue de presse.
Aujourd'hui, quelles sont vraiment les solutions pour investir tout en réduisant mes impôts ?
À la Caisse d'épargne, nos experts en gestion privée identifient avec vous les solutions qui correspondent à votre situation et à vos objectifs. Investir dans des PME, dans l'innovation ou dans l'immobilier ? Nos experts vous aident à faire les bons choix en matière de défiscalisation. Pour plus d'informations sur ces solutions, leurs modalités et leurs conditions, renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Gestion privée, nom féminin. Conseil d'experts pour la gestion de votre patrimoine.
Caisse d'épargne, la banque. Nouvelle définition.
Il est 8h31. La revue de presse, Gabriel Pereira. Bonjour Gabriel.
Bonjour à tous.
Dans la presse ce matin, faut-il en finir avec le CDI.
Question à la une de deux journaux, Libération et La Dépêche du Midi à Toulouse, la ville du nouveau prix Nobel d'économie Jean Tirole, théoricien en chef du contrat de travail unique. C'était en 2003 dans un rapport, Jean Tirole proposait une solution médiane entre la protection du CDI et la précarité du CDD. Un objectif, libérer le marché du travail. Et bien voilà l'idée à nouveau propulsée au centre de l'actualité. Acte 1, 13 octobre dernier, fraîchement auréolé de son Nobel, Jean Tirole persiste et signe. Au lieu de protéger les salariés, dit-il, le CDI les dessert car plus personne n'a accès à ce type de contrat. Acte 2, hier, Manuel Valls, sous l'art de mettre les pieds dans le plat, écrit Libération. Le Premier ministre juge cette idée intéressante parce qu'elle permettrait, selon lui, d'agir sur les inégalités entre les salariés très protégés en CDI et les salariés précaires en CDD, en intérim. En somme, explique La Dépêche du Midi, réduire la fracture entre les insiders et les outsiders, ceux qui sont dans et en dehors du système. Encore un tabou qui flanche selon Libé. Après la modulation des allocations familiales, Manuel Valls est là encore assuré de faire la quasi-unanimité contre lui à gauche. Même si le Premier ministre a rappelé la limite, c'est aux partenaires sociaux de discuter du contrat unique, dit-il. Et il le sait très bien, il y a peu de chances pour qu'un éventuel dialogue aboutisse parce que comme le note Daniel Ourkeby dans La Dépêche, le patronat est très pour et les syndicats très contre. Illustration, voilà comment Jean-Eudes Duménil de la CGPME résume le contrat de travail unique. Si l'activité se maintient, le salarié reste. S'il y a un retournement de conjoncture, on considère que ce serait un motif réel et sérieux de licenciement. Voilà le point d'achoppement avec les syndicats. C'est l'insécurité pour tous, dénonce Thierry Lepan, le secrétaire général de la CGT. C'est une tentative de plus de déréglementer le marché du travail, renchérit Bernadette Segol de la Confédération européenne des syndicats. Selon elle, les pays qui ont le plus assoupli les conditions de licenciement des CDI ne sont pas, et de loin, les pays où la précarité a reculé. La preuve en Grande-Bretagne, taux de chômage faible, peu de CDD, mais où le contrat zéro heure oblige plus d'1,5 million d'employés à être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, payés 7,30 € de l'heure. Michel Husson de l'Institut de Recherche Économique et Sociale est très critique. On fait apparaître les CDI comme des privilégiés qui devraient, par esprit de solidarité, s'ajuster vers le bas, regrette-t-il. Alors la France souffre-t-elle vraiment d'un trop-plein de rigidité et de protection ? Eh bien, pas si simple. Même la libérale OCDE le reconnaît, écrit Libé. Sur une échelle de 0 à 6, mesurant l'indice de protection de l'emploi, la France affiche un score de 2,5, moins que l'Allemagne, qui protège un peu mieux et qui affiche un indice de 3 sur 6.
Dans la presse également, le TGV à la dérive.
Titre du Figaro ce matin, le quotidien revient sur ce rapport accablant de la Cour des comptes qui dénonce le coût prohibitif pour la SNCF et les finances publiques du fleuron du rail français. Emporté par sa réussite initiale, le TGV doit être mis à la diète s'il ne veut pas foncer vers la faillite, préviennent les Échos. Ils ont été trop gourmands, les élus régionaux, tous ou presque, ont voulu dans leur gare ce symbole de modernité. Problème, au lieu de circuler à 320 km/h, ils circulent dans 40% des cas sur des lignes classiques. Le TGV joue donc très souvent le rôle de TER de luxe, avec pas mal d'incohérences. Exemple, sur la portion Rennes-Quimper, le TGV s'arrête plus souvent que le train régional. Une folie, en multipliant les dessertes et en étirant les lignes, l'État, les collectivités et la SNCF creusent leur tombe, écrit Jean-Louis Hervois voix dans la Charente Libre. La rentabilité du TGV a été divisée par 2 en 14 ans, précise de son côté Libération. La Cour des comptes fait donc plusieurs recommandations. La première, lever les restrictions sur le transport longue distance routier, en clair relancer les autocars, ce qu'avait déjà proposé le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Autre recommandation, concentrer les moyens financiers sur l'entretien du réseau et ne lancer des projets qu'après études préliminaires.
Enfin, c'est pas en autocar qu'on est allé à Calais hier, Gabriel.
C'était en train.
Voilà, en TGV.
En TGV.
Quoi d'autre dans la presse ?
Le gros coup de blues des bibliothèques, c'est à lire dans la Provence ce matin. Le manque de personnel affecte tout le réseau du livre de Marseille. On reste constamment sous-effectif, déplore une employée de l'Alcazar. 18 000 mètres carrés dédiés au livre, une tâche immense, impossible de tout gérer. Les bibliothécaires réclament par exemple un magasinier depuis 2 ans, toujours rien. Résultat, l'Alcazar est parfois contraint de fermer purement et simplement des services. Celui destiné aux déficients visuels et auditifs, par exemple, clos depuis le mois d'août. Et encore, c'est pire au sein du réseau des bibliothèques de quartier, raconte la Provence. Désormais, la moitié d'entre elles ferment au public tous les matins et un jour supplémentaire en semaine. À Castellane, la boîte de retour de prêt est également inaccessible, faute de personnel pour la vider. Trop c'est trop, les syndicats font circuler une pétition pour dénoncer une dégradation sans précédent des services. La mairie de Marseille a lancé un audit. À la une du Parisien aujourd'hui en France, comment faire baisser le prix du permis de conduire? Pourquoi pas en développant les auto-écoles sur Internet, c'est l'une des pistes avancées par le gouvernement. Cours théorique sur ordinateur et prise de rendez-vous par smartphone pour les leçons de conduite. Les auto-écoles traditionnelles sont furieuses, explique le Parisien. Et puis comment on dit chez vous ? Serpillière, panos, toile, torchon à laver ou peut-être loc à loqueter ?
Oui, il y a une carte de France pour s'y retrouver dans ces délicieuses expressions. J'ai oublié la Wassingue.
L'atlas de la France incroyable qui vient de paraître aux éditions Autrement et dont Libération publie quelques extraits. Le physicien réalisateur Olivier Marchon a collecté auprès de l'INSEE tout un tas de statistiques et de données inutiles et il en a fait des cartes. Combien de clubs de sumo en France ? Un seul à Colombelles-les-Deux-Églises. Et sinon, on mange quoi ? Andouillette lyonnaise, boudin blanc catalan ou encore saucisse de Montbéliard, faites votre choix. Et puis figurez-vous que c'est dans la Creuse qu'on a le plus de chances de gagner au loto. C'est bon à savoir. Bonne journée.
Merci, c'était Gabriel Pereira pour la revue de presse sur Inter. Et ben, vous savez que c'est sur France Inter qu'on a le plus de chances d'entendre François Morel chaque vendredi. Il viendra dans un quart d'heure, comme chaque fois, comme d'habitude en direct. Et dans un instant, retour de notre invité, le président du Comité consultatif national d'éthique, Jean-Claude Ameisen.